soda. Can I come over? Just let me in. I wanna go where the nights are blinding, the sun keeps shining. If I could, I know. C'est quoi ce bruit?
La balayeuse.
Ah, c'est la balayeuse.
C'est pas grave, la porte est fermée.
Je fais le ménage pendant qu'on fait. Ouais, bienvenue chez moi. Je vais passer l'aspirateur pendant qu'on parle à la radio.
Ok, bon, on recommence. Bonjour Mika.
Bonjour.
Je suis allée voir votre spectacle hier au Corona. Vous avez vraiment du talent pour faire danser les gens.
T'as dansé donc.
Mais j'ai vu beaucoup de gens. Moi, j'ai moins dansé, mais j'ai vu. Ben, parce que j'étais plus observatrice. Ben, j'aimais bien regarder. Moi, ce que j'aime le plus dans un concert, c'est de regarder comment la foule réagit. Et puis, je trouvais que les gens avaient l'air bien heureux à votre concert. C'est comme si vous donniez une dose de vitamine aux gens. Puis vous, vous aviez l'air à vous amuser aussi. Je me trompe?
Je peux pas te dire à quel point je suis heureux de finalement me retrouver sur la scène. Et c'est pour ça que je voulais faire des petites salles pour commencer, parce que je voulais vraiment développer un nouveau langage avec mon public, sans artifice, sans grand décor, sans les danseurs, sans les confettis, sans les ballons. Parce que je me suis dit, si j'enlève tout ça, tout le monde va penser que ça va être moins bien. Mais en fait, la réaction, elle va être, je pense que peut-être, elle pourrait être encore plus forte. C'était 5 fois plus fort que la dernière fois que j'ai chanté à Montréal.
Mais je me suis demandé pourquoi vous aviez fait le Corona, parce que je sais que vous êtes capable de faire le Centre Bell.
Oui, mais ça sert à quoi un Centre Bell pour recommencer? Moi, je suis pas là pour juste faire un Centre Bell et dire ciao Montréal, c'était beau, on a fait 10 000 personnes, 12 000 personnes et on soit plus tard. Non, moi mon discours il est beaucoup plus sur le long terme. C'est une ville, c'est un pays, mais c'est une région aussi qui m'a donné beaucoup pendant ma carrière et qui continue à me donner des opportunités, m'en remplir d'une satisfaction. Donc si c'est l'orchestre symphonique, on est en train de penser à des nouvelles choses ensemble. Si c'est des nouveaux projets artistiques qui vont sortir de là, je voulais vraiment recommencer après 4 ans. Un beau discours qui peut évoluer et peut-être on va arriver au Centre Bell, peut-être on va faire des beaux festivals, mais on doit commencer avec un discours sincère, intime et nouveau, pas la répétition. Après 4 ans, il faut respecter son public, il faut se mettre à la preuve, il faut dire ok, je suis dans vos mains, voilà ce que je suis, my name is Michael Holbrook, je me représente à vous, je me représente à moi-même, est-ce que vous me suivez ou non?
Parce que c'est votre vrai nom, Michael Holbrook.
C'est mon nom civil. Mon vrai nom, c'est Mika. Ma mère m'a... Moi, c'est le nom de mon père. Et mon père, qui voulait suivre la tradition de sa famille. Donc, si moi, j'ai un fils... parce que moi, je suis Michael Holbrook Pennyman Jr. Et si j'ai un fils un jour, je dois l'appeler dans la tradition de ma famille. Michael Holbrook Pennyman III. Donc, ma mère avait dit, ouais, ben, ça va, tu peux garder ta tradition, mais ton nom, il est super embêtant, alors on va l'appeler Mika. Ça, c'était 1 heure après ma naissance. Donc, c'est Mika. Mais j'avais perdu un peu Mika. J'avais perdu le Mika qui avait 17 ans, qui écrivait des chansons.
Et pourquoi vous l'avez perdu?
Parce que la vie, elle est conne. La vie, elle est chiante. On pense qu'elle est chiante, mais en fait... La vie, c'est la vie. Il y a la gloire, il y a la tristesse, il y a des succès, il y a aussi des faillites, il y a plein de différentes choses. La vie va toujours être la vie. On peut pas l'arrêter. Mais on peut changer la manière qu'on réagit à la vie. Et on peut trouver notre centre. Et j'ai dû trouver mon centre, encore une fois. J'ai dû retomber amoureux de la musique. Retomber amoureux de mon public, retomber amoureux de la scène, du process créatif, m'enlever de l'industrie, trouver une autre manière de me stimuler, recommencer un discours avec mon public, tout pour pouvoir gérer la vie d'une manière plus tranquille ou plus honnête et mettre tout ça dans ma musique encore une fois.
Mais est-ce que le succès que vous avez vécu, parce qu'on s'entend que vous avez eu quand même un très gros succès depuis votre premier album, est-ce que ça vous a étourdi? Est-ce que c'est ça qui vous a fait perdre votre centre?
C'est pas aussi simple que juste le succès. Je me suis pas trouvé dans une cage dorée. C'est pas que tout d'un coup je me suis trouvé dans une tour ou dans un appartement au 40e étage en train de regarder le monde tout seul, en train de boire. C'est pas ça. C'est pas le grand cliché. C'est plus profond. Comment vous expliquer? C'est comme. J'écris de la musique, de la pop mélodique, dansante. Mais je ne suis pas formaté dans l'industrie de la pop. Je ne suis pas quelqu'un qui va à Los Angeles et qui demande à cet écrivain ou à un Max Martin de m'écrire un tube et de le produire de cette manière-là. Je fais pas des albums comme ça. J'admire les gens qui peuvent le faire, mais c'est pas du tout ce que je fais. Je n'ai pas envie de le faire. Je ne l'ai jamais fait.
Vous n'êtes pas un hitmaker.
Je suis un atypical hitmaker. Parce qu'il y a des tubes, mais il y a des tubes dans mon répertoire qui se développent au fur et à mesure et qui font partie de ma vie, qui sont nés de je raconte des histoires qui sont vraiment ma vie. Et donc, c'est très important que je puisse raconter aussi d'une manière très honnête. Et ouais, il faut à la fois être très ouvert et aussi se protéger de l'industrie pour ne pas sentir cette pression-là. Parce que je sais que si le moment où je commence, je deviens victime à cette pression-là, après je vais plus avoir envie de le faire, je vais tout perdre. Alors bizarrement, je dois être consciemment contresens pour pouvoir durer la longueur. Et je reconnais cette chose maintenant et je la défends.
Ça veut dire quoi être à contresens? Donnez-moi un exemple concret de quelque chose que vous faites à
Alors,
contresens.
Par exemple, une chanson comme Tiny Love.
Ouais.
Ok, alors Tiny Love, comment on la joue à la radio, cette chanson-là, qui dure presque 5 minutes, qui est comme une sorte de paysage, c'est pas une structure normale, avec une vidéo qui est très intense, mais et presque comme un petit film. C'est un geste artistique. C'est pas calculé pour avoir le potentiel commercial au maximum. Mais je sais qu'au fur et à mesure, ça va vraiment trouver sa place dans mon répertoire. Et je sais que je vais pouvoir chanter cette chanson devant 45 000 personnes. Ils vont la chanter avec moi. J'en suis convaincu. Et il faut que je le défends, et ça prend du temps. Mais ça, c'est de se libérer comme ça ouvre des possibilités artistiques énormes. Ça veut dire que quand les gens viennent à un concert, c'est pas juste, mais même une chanson comme Elle me dit, par exemple, Elle me dit, c'est né d'une histoire totalement personnelle. C'est une chanson que j'ai écrite pour parler de la pression que ma mère me mettait dessus depuis que j'ai 7 ans. Quand elle m'entraînait depuis 7 ans, 3 heures ou 4 heures par jour, quand j'étais viré de l'école, elle me disait tous les jours, toi, tu vas où en prison ou tu vas avoir du succès? Alors, juste écris une chanson contente, écris un truc.
Votre
comme
mère
ça.
Vous disait ça.
Mais ouais,
elle
bien
vous
sûr,
disait,
tous les jours.
Elle savait que vous étiez pour aller vers la musique?
Ah, ouais. Ouais, j'étais viré de l'école, elle me dit, toi, maintenant, tu travailles. Mais quand elle disait, tu travailles, c'est pas, tu vas faire tes devoirs. Tu vas aller gagner de l'argent, toi. Tu vas pas rester à la maison. J'avais 8 ans. Toi, tu vas aller gagner de l'argent. Alors, elle m'entraîne 3 heures par jour. 6 mois plus tard, j'ai mon premier job. Et après ça, jusqu'à l'âge de 15 ans, la moitié de l'année, j'étais à l'école et l'autre moitié, j'étais en train de faire des jobs. Et je travaillais.
Et
Des
vous faisiez
pubs,
ça, c'était de la musique, là, parce que
c'était
vous
de la
faisiez des
musique.
jobs.
Non,
Vous
ouais, des
faisiez.
jobs. Je chantais avec l'Opéra Royal, avec des orchestres contemporains, avec des quartors expérimentaux. Je faisais des pubs pour le chewing-gum, pour British Airways, pour des émissions de cuisine, pour des trucs, pour des compagnies de lait dans le Moyen-Orient, mais n'importe quoi. Je travaillais des comédies musicales sur le West End, des comédies musicales au Nord, des festivals de musique contemporaine à Warsaw.
Et rappelez-moi, vous aviez quel âge à cet âge-là?
Ça a commencé à l'âge de 8 ans.
Ah, j'en reviens pas. Puis votre mère, vous s'organisait pour que vous puissiez réaliser tout ça?
Non, mais c'est ma mère m'entraînait et je pleurais tous les jours. Quand j'avais commencé, je pleurais tous les jours. Elle avait décidé que j'allais le faire. Je ne voulais pas le faire. J'aimais la musique et elle a vu qu'il y avait un truc. Mais je ne voulais pas le faire. Mais au fur et à mesure, j'ai réalisé qu'elle avait raison. Mais au début, ce n'était pas évident. Hein. Ce n'était pas facile. C'était pas évident. Mais maintenant, je reconnais aussi le sacrifice parce que, par exemple, juste pour vous expliquer à quel point ma mère appelait ou elle recevait des coups de fil et il disait « Est-ce que Mika est disponible pour faire cette performance, je sais pas, à Manchester ?» Elle disait « Oui, oui. » Et il disait « Mais nous, on n'a pas le budget pour prendre pour des hôtels, pour les trains, pour des trucs, parce que c'était la musique classique. » Elle disait « Non, 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 on n'a pas besoin de budget, tout va bien, on n'a même pas besoin d'hôtel, ne vous en faites pas, on reste avec des amis. » On y allait dans la Toyota Previa de Londres, on conduisait n'importe où, et on y allait, et on partait tard la nuit, on dormait dehors, jusqu'à l'heure des répétitions. Moi, mes sœurs, mon frère, dans la Toyota Previa, on dormait dehors ou dans une station de service près, et ensuite, quand on était prêt, on se réveillait, on prenait notre petit déjeuner, et j'allais chanter, et le soir, on rentrait. Et on faisait ça tout le temps. Et je pensais...
Traumatisée, j'en reviens.
Pourquoi traumatisée?
Ben, parce que c'est, premièrement, hors norme.
Mais c'est la chose...
Est-ce que vous étiez heureux?
J'étais... Si je pense aux moments les plus essentiels, importants, heureux et importants, vraiment, de ma vie, c'est ces moments-là. J'étais le plus heureux. Je suis toujours à la poursuite de cette sensation.
Êtes-vous encore heureux? Si je vous demande si vous êtes heureux, le présentement dans la vie, êtes-vous heureux?
Beaucoup, beaucoup plus heureux que j'y étais il y a 4 ans. Même si la vie est beaucoup plus difficile en ce moment, personnellement.
D'accord.
Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la famille. Et j'ai perdu beaucoup de gens pendant l'écriture de cet album. J'ai perdu 4-5 personnes très proches. 4-5 personnes qui faisaient partie aussi, qui sont dans mes textes, qui sont dans mes chansons. Mais bizarrement, quand on confronte les choses difficiles, même la mort des gens qu'on aime, ça nous remet en contact avec la vie. La mort nous remet en contact avec la vie. Et on a un choix. Et on doit prendre activement un choix, même si c'est vraiment très difficile à le faire, mais que tout ça devient partie, ce que nous remet, pour nous remettre en contact avec la vie, même dans des circonstances difficiles.
Parce qu'il est étonnant sur votre musique, autant dans les premières chansons que ce que j'entends sur l'album. Moi, si j'avais à choisir une trame sonore pour ma vie, je prendrais votre dernier album. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de hyper joyeux, très ensoleillé. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup. Puis dans les rythmes aussi, là, il y a quelque chose d'hyper plaisant. Puis je me disais, ça sort de où tout cet aspect pop-là? Pourquoi que ça vous plaît autant de faire de la pop?
Vous voulez la vérité ou vous voulez la version diplomatique?
Je veux toujours la vérité.
Ah ben, ça sort de la tristesse. De cette période de ma vie qui est très 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 triste, et j'ai décidé d'écrire une sorte de un message à les gens que j'aime, à beaucoup de femmes dans ma famille, je l'avoue, mais en faisant ça aussi en reconnaissant mon père, mais en reconnaissant mon père d'une manière que j'ai jamais fait, en prenant son nom et de dire oui, tu existes aussi. Et tu fais partie aussi de ce voyage, de notre famille, de notre... on a construit cet univers ensemble.
Il était présent dans votre vie, votre père?
Il a toujours été présent.
Okay.
Mais j'en parle jamais. Et aussi parce que j'ai ce rapport tellement fort avec ma mère, à cause et grâce à ce que je vous ai expliqué avant.
Ouais.
C'est ça. C'est un petit peu... ça a pris beaucoup de place, toute la place presque. Et aussi, il y a eu des autres challenges, vous savez, avec mon père. On était toujours en pression pour une grande famille, même une mère très exigeante qui voulait le meilleur pour ses enfants, qui dépensait tout l'argent sur ses enfants. Mais aussi des autres challenges comme on a bougé beaucoup de fois, on a eu des problèmes d'argent assez intenses, on a dû s'échapper d'un pays parce qu'on n'avait plus d'argent, on ne pouvait plus payer les huissiers. Mais aussi, mon père a été pris en otage dans un moment très important. Avant, c'était papa. Il était pris en otage pendant la première guerre du Golfe. Il était à l'ambassade américaine pendant 8 mois. On pensait tous les jours qu'il allait mourir. Mais quand il est revenu, c'était quelqu'un de différent. Et ça, c'était quand j'avais 7 ans, 6 ans, 7 ans. Et depuis ce jour-là où il est revenu, il était Mike. Il n'était plus papa. Donc, c'est peut-être né de là. Mais donc, j'ai voulu, avec cet album, réparer certaines choses, consciemment. J'étais Mika, je suis devenu Michael Holbrook pour cet album, mais maintenant je reconnais que je m'appelle Michael Holbrook, mais je suis Mika, le fils de Michael et le fils de Johnny. Et c'est pour ça que l'album, on ne comprend pas pourquoi, mais il a ce truc qui colle, qui rentre, on ne sait pas pourquoi, mais quand on l'écoute, ça rentre dans l'estomac. tout en douceur, ça on sait pas, c'est ça, parce que c'est né de cette ambition là, de cette intention.
Ben merci beaucoup. C'est vrai que votre album entre en douceur parce que j'en suis à ma troisième écoute. Ben merci beaucoup. C'est une excellente, très très belle rencontre. Merci
à vous.